Voici un cours d'histoire ancienne de Jacqueline Christian. Athènes, une démocratie de sa naissance à sa mort. Troisième partie. Athènes et Sparte au 5e siècle, de la rupture de l'Alliance à la fin de la guerre du Péloponnèse.
Nous allons voir cette fois Athènes et Sparte de 462-461 à 404, la fin de la guerre du Péloponnèse. Et tout d'abord, les premiers heurts entre 462-461 et 431. Avec une première période qui va de 462 à la paix de 30 ans. La première affaire à opposer Athènes et la Ligue du Péloponnèse fut une de ces querelles locales typiques des États grecs. Mégare et Corinthe se disputaient quelques arpents de terre, étant voisines sur l'isthme de Corinthe. Mégare choisit de s'appuyer sur Athènes qui sauta sur l'occasion, car Mégare, comme Corinthe d'ailleurs, avait un port sur chaque mer, le golfe Saronique et le golfe de Corinthe. Donc l'Égée orientale et l'Adriatique. Athènes venait donc se poser en rival de Corinthe, y compris du côté de l'Occident. Les Athéniens s'emparèrent même de Naupacte à l'entrée du golfe de Corinthe et y installèrent les Messéniens révoltés que les Spartiates avaient dû se résigner à laisser partir. Un double geste de provocation donc, vis-à-vis de Corinthe et vis-à-vis de Sparte. Mais les Athéniens étaient au même moment appelés vers d'autres théâtres d'aventure. La mort de Xerxès avait ouvert une crise dans l'Empire perse en 465. L'Égypte en particulier, révoltée, fit appel aux Athéniens. Leur flotte fit voile vers l'Égypte et ils s'emparèrent de Memphis. Malheureusement, toute la chronologie de ces années est obscure. On ne sait même pas la date exacte de la fin de la troisième guerre de Messénie, 459 ou 454. De même, l'expédition d'Égypte doit s'achever en désastre en 454. Les luttes en Grèce ne sont d'ailleurs pas plus claires. Athènes est l'allié d'Argos depuis 462-461 et les deux cités semblent chercher à éliminer l'influence spartiate, et donc corinthienne, du golfe Saronique. On voit du coup reprendre le vieux conflit entre Athènes et Égine. Mais les Éginètes étaient aussi les seuls Grecs du continent à avoir place dans le comptoir de Naucratis et cette réactivation du conflit est donc peut-être liée aux événements d'Égypte. En 459-458, Athènes a combattu, la même année, à Chypre, en Égypte, en Phénicie, à Allié, à Égine et à Mégare. C'est ce que nous apprend la liste des morts de la tribu Érectéis. Voilà tout de même beaucoup de théâtres d'opérations. Les Athéniens avaient déjà construit des longs murs entre Mégare et son port sud Nisaïa, de manière à barrer le passage de l'isthme aux Spartiates. Ils entreprennent de faire la même chose entre Athènes et le Pirée, tout en assiégeant Égine. Or, dans des circonstances obscures, la Ligue du Péloponnèse intervient en Grèce centrale, sans doute pour soutenir les Thébains, soucieux d'établir leur influence en Béotie et qui pouvaient prendre à revers les Athéniens, et cela tout en empêchant la jonction de ces derniers avec les Thessaliens. Les deux groupes se heurtèrent à Tanagra, en Béotie, dans l'été 457, et les Athéniens furent battus. Mais les Lacédémoniens se dépêchèrent de rentrer chez eux. Alors les Athéniens revinrent immédiatement en Béotie à la fin de l'été et écrasèrent les Béotiens à Inophyta. Ils en profitent pour favoriser partout la tendance démocratique. Par contre, la Thessalie se détache alors d'eux. Il semble que Simon fut rappelé d'exil fin 457. Les Éginètes capitulent en 457-456 durant l'hiver. Ils durent raser leurs murs, remettre leur flotte et se soumettre aux Phoros. Et, à la suite de cela, en 546-545, on voit le stratège Tolmides venir incendier l'arsenal de Gicyon en Laconie et ravager la pointe de Métonie, puis aller narguer Corinthe en s'emparant dans le golfe de Chalcis d'Étolie. Mais de 456 à 454, les Athéniens subirent leur défaite d'Égypte et en 454-453, ils se résignent par l'intermédiaire de Simon à faire paix avec les Péloponnésiens. Par la suite, Simon mourut au cours d'une expédition à Chypre qui fut suivie d'une paix, dite paix de Callias 449-448, qui délimitait les zones perses et les zones grecques dans l'Égée orientale. Mais cette paix amenait le risque de disloquer la confédération de Délos. D'ailleurs, après la défaite de Coronée en Béotie de 447-446, les oligarques revinrent dans les cités béotiennes, cependant que les Spartiates réapparaissaient en Grèce centrale lors de la Deuxième Guerre sacrée. En 446, Leubée alors se révolte, ainsi que Mégare, qui fait appel à Sparte. Mais curieusement, le roi Pléistoanax se retire sans avoir combattu et la tradition nous dit qu'il fut acheté par Périclès. Celui-ci put aller alors écraser les Eubéens et même installer des Athéniens à Istié d'Eubée. Du coup, en 446-445, Athéniens et Spartiates signent une paix de 30 ans. Les Athéniens évacuaient Mégare, Trézène et l'Achaïe, mais ils gardaient Égine. Les Argiens ne participaient pas au traité, ils avaient signé leur propre paix de 30 ans en 451, après la défaite athénienne de Coronée. Il y avait dans le traité une clause d'arbitrage, les deux hégémonies se reconnaissaient donc mutuellement. Cette paix pouvait ainsi apparaître comme une garantie du statu quo. En fait, la clause relative au neutre permettait toutes les expansions, et l'expansionnisme était plutôt le fait d'Athènes que celui des Péloponnésiens. Nous allons donc tout droit vers la guerre du Péloponnèse, 446-5-431. Les Athéniens chassés de Mégaride et d'Achaïe avaient gardé leurs relations avec les Mycéniens de Naupacte à l'entrée du Golfe, et la paix de 30 ans ne les empêche pas de regarder vers l'ouest, avec prudence d'ailleurs. Ils avaient répondu à l'appel des Sybarites, qui voulaient restaurer leur cité détruite en 510 par Crotone et qui avaient fait une première tentative en 446. En 444-443, une expédition panhellénique patronnée par les Asténiens va fonder une nouvelle colonie près de l'ancienne Sybaris, Thurioi. Mais il s'agit d'une véritable colonie qui d'ailleurs ne reconnaît pas de métropole. En 441-440, Athènes doit faire face à la rébellion de Samos. L'affaire a éclaté de façon indirecte par un conflit entre Milésiens et Samiens. Les Athéniens ayant favorisé les Milésiens, Samos se révolte avec l'aide du satrape de Sardes. Le siège dura 9 mois, après quoi Samos dut livrer sa flotte, raser ses murs et rembourser les frais de guerre. En 436, Athènes fonde en Thrace l'importante colonie d'Amphipolis, importante en raison de bois de construction et des mines de métal précieux du territoire arrière. Au total, on a donc une politique tendant essentiellement au maintien de l'Empire, mais avec 2 points noirs pour Athènes, la renaissance sur son flanc nord de la Confédération béotienne et l'affaire de Samos. Ce n'est pourtant pas de la Béotie hostile ni des conflits à l'intérieur de l'Empire que va naître la Grande Guerre qui va mettre aux prises la quasi-totalité des cités grecques à la fin du Ve siècle. Quelles sont donc les causes de cette guerre? Thucydide distingue entre les causes superficielles et la cause profonde qui serait l'impérialisme athénien. Les causes apparentes du conflit, en tout cas, sont les conflits à l'intérieur du système des colonies et sous-colonies de Corinthe, d'abord en Occident avec les problèmes entre Corcyre et Épidamne, la première soutenue par les Athéniens, la seconde par les Corinthiens, puis en Chalcidique, où la colonie corinthienne de Potidée, qui faisait partie de la ligue de Délos, se révolte en 432. À l'automne 432, les Corinthiens obtiennent une réunion de la ligue du Péloponnèse. En fait, donc, Athènes n'a pas outrepassé le traité de la paix de 30 ans, et l'origine de la guerre se trouve en fait dans les cités du Golfe, Corinthe et Mégare. Voir d'ailleurs le discours des Corcyréens aux Athéniens, Thucydide 1.36, il y a en Grèce 3 marines qui comptent, la vôtre, la nôtre et celle des Corinthiens. Et aussi, en 1.38, ce que disent les Corinthiens, nos colonies, c'est un fait, nous traitent avec honneur et nos colons nous sont exceptionnellement attachés. De ces phénomènes vont donc naître la guerre du Péloponnèse. Dans celle-ci, nous allons voir plusieurs points, les forces en présence, très rapidement la guerre jusqu'à la paix de Nicias, puis les points du temps de paix et de l'expédition de Sicile, enfin la première révolution oligarchique à Athènes, suivie de la fin de la guerre et de la chute d'Athènes. Quelles sont les forces en présence? Thucydide nous les énumère au livre 2, 9. Voyons maintenant, dit-il, avec quels alliés les deux adversaires entraient en guerre. Voici la liste des alliés des Lacédémoniens. En deçà de l'isthme, tous les peuples du Péloponnèse, à l'exception des Argiens et des Achéens. En dehors du Péloponnèse, les Mégariens, les Béotiens, les Locriens, les Phocidiens, les Ambraciotes, les Leucadiens et les Anactoriens. Les Athéniens avaient avec eux Chios, Lesbos, Platée, les Mycéniens de Naupacte, la majorité des Acarnaniens, les Corcyréens et les Akintiens. Ajoutons à cela les états tributaires situés en diverses régions, les cités de la Carie maritime, les Doriens voisins de la Carie, l'Ionie, les Lespons, les cités du littoral Thrace, les îles situées à l'Orient entre le Péloponnèse et la Crète, à l'exception de Mélos et de Théra. Vous voyez immédiatement que les deux ensembles n'ont pas de terrain de lutte commun. L'un des groupes est une puissance terrestre, l'autre une puissance navale. La guerre avait donc toute chance d'être longue. D'autant plus que les deux groupes s'opposaient presque point à point. Voyons ce que dit Thucydide dans le discours que les Corinthiens adressent aux Spartiates.
En outre, nous pensons avoir, plus que d'autres, le droit d'adresser un blâme à autrui. Car de grands intérêts sont engagés et vous ne paraissez pas vous douter de leur importance. Vous ne songez pas non plus à quels adversaires vous avez affaire avec les Athéniens. Quelle différence totale avec vous. Ils aiment les innovations, sont prompts à concevoir et à réaliser ce qu'ils ont résolu. Vous, si vous vous entendez à sauvegarder ce qui existe, vous manquez d'invention et vous ne faites même pas le nécessaire. Eux se montrent audacieux, au-delà même de leur force, hardis au-delà de toute attente, pleins d'espoir même dans les dangers. Votre ligne de conduite consiste à faire moins que vous ne pouvez. Vous vous défiez même de ce qui est certain. Vous vous imaginez que jamais vous ne pourrez vous tirer des situations difficiles. Ils agissent et vous temporisez. Ils voyagent à l'étranger et vous êtes les plus casaniers des hommes. Eux, en quittant leur pays, ils pensent tirer quelques profits. Vous, en sortant de chez vous, vous imaginez que vous nuirez à votre situation présente. Victorieux, ils vont de l'avant tant qu'ils peuvent. Sont-ils vaincus, ils cèdent le moins de terrain possible. Quand il s'agit de défendre leur ville, ils font abandon complet de leur corps. Mais ils ne se laissent pas ébranler dans leur résolution quand il faut agir pour elle. S'ils échouent dans leur conception, ils se croient dépouillés de leur propre possession. S'ils acquièrent par la guerre des territoires, c'est peu de choses en comparaison de ce qu'ils espèrent obtenir. Si l'expérience les déçoit, ils conçoivent d'autres espoirs et se rattrapent de leur insuccès. Pour eux seuls, la réussite et l'espoir sont d'accord avec leurs projets tant ils les exécutent rapidement. Toutes leurs entreprises, ils les poursuivent à travers des difficultés et des dangers incessants. Ils jouissent très peu du présent parce qu'ils veulent toujours acquérir davantage. C'est qu'à leurs yeux, il n'y a pas d'autre fait que l'accomplissement du devoir. Un repos sans occupation leur pèse plus qu'une activité pénible. Bref, en disant que de leur naturel, ils sont aussi incapables de se tenir tranquilles que de laisser les autres tranquilles, on dirait la stricte vérité. Et c'est au moment où une pareille ville se dresse en face de vous, lacédémoniens, que vous temporisez? Vous pensez qu'un peuple ne saurait fort longtemps demeurer en paix quand il prend de justes dispositions militaires et qu'il est résolu, si on l'attaque, à ne pas supporter l'injustice? Ne pas léser les autres et rester sur la défensive sans subir de dommages, voilà où vous mettez l'équité. Vous auriez déjà bien de la peine à obtenir un semblable résultat avec une cité semblable à la vôtre. Mais comme nous venons de vous le montrer, vos institutions, comparées aux leurs, sont archaïques. Sur ce point, comme dans les arts, ce sont toujours les nouveautés qui l'emportent. Pour une cité paisible, les lois immuables sont les meilleures. Mais quand on est contraint de faire tête à plusieurs entreprises, il faut faire preuve de beaucoup de souplesse. Aussi, en raison de leur grande expérience, les Athéniens ont-ils renouvelé plus que vous leurs institutions. À partir de maintenant, votre lenteur doit prendre fin. Comme vous l'avez promis, portez secours rapidement à vos alliés et principalement aux Potidéates en faisant une incursion en Attique. N'abandonnez pas à vos pires ennemis des gens qui sont vos amis et vos frères. Ne nous obligez pas nous-mêmes à nous tourner par désespoir vers d'autres alliés. Dans cette extrémité, nous ne serions répréhensibles ni au regard des dieux, témoins de nos serments, ni à ceux des hommes de bon sens. La responsabilité de rompre les conventions retombe non sur ceux qui, se voyant abandonnés, se tournent d'un autre côté, mais sur ceux qui ne secourent pas les alliés qu'ils ont juré de défendre. Montrez-nous de l'empressement et nous vous resterons fidèles. Alors nous serions criminels en passant dans l'autre camp et nous ne pourrions trouver d'alliés plus sympathiques. Délibérez avec soin sur ce sujet. Tâchez que votre hégémonie dans le Péloponnèse ne soit pas inférieure entre vos mains à ce qu'elle était du temps de vos pères.
Le discours des Corinthiens est donc clair. Les Spartiates ne peuvent refuser d'entrer en guerre. Quelles sont donc les forces qui s'opposent au total? Les Péloponnésiens pouvaient aligner 40 000 hoplites, des forces disparates, certes, mais bien supérieures à celles d'Athènes. Par contre, Athènes disposait de 300 trières et de 6 000 talents permettant d'entretenir cette flotte, cependant que leurs adversaires, à part Corinthe, n'avaient ni flotte ni argent. Au total donc, Athènes s'enferme dans une politique défensive et impose sa stratégie à l'adversaire, comptant que le manque de ressources financières de celui-ci le rendra plus sensible à l'usure. En 431, cependant, malgré les avertissements que Thucydide place dans la bouche du sage à roi de Sparte Archidamos, on croit volontiers des deux côtés que la guerre sera courte. Nous possédons un grand texte de l'hiver 431-430, extrêmement célèbre, et qui pose le problème de la lutte en cours en des termes différents de ceux de Thucydide. C'est l'oraison funèbre prononcée par Périclès en l'honneur des premiers morts de la guerre et qui est en fait un parallèle entre les mœurs spartiates et athéniennes. Périclès dit d'ailleurs que son oraison funèbre diffère de celle de ses prédécesseurs. En fait, lui, dans ce discours, met l'accent sur le côté idéologique de cet affrontement.
Notre régime politique ne se propose pas pour modèle les lois d'autrui, et nous sommes nous-mêmes des exemples plutôt que des imitateurs. Pour le nom, comme les choses dépendent non pas du petit nombre mais de la majorité, c'est une démocratie. S'agit-il de ce qui revient à chacun? La loi, elle, fait à tous, pour leurs différents privés, la part égale, tandis que pour les titres, si l'on se distingue en quelques domaines, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie mais le mérite qui vous fait accéder aux honneurs. Inversement, la pauvreté n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa situation. Nous pratiquons la liberté, non seulement dans notre conduite d'ordre politique, mais pour tout ce qui est suspicion réciproque dans la vie quotidienne. Nous n'avons pas de colère envers notre prochain s'il agit à sa fantaisie, et nous ne recourons pas à des vexations qui, même sans causer de dommages, se présentent au dehors comme blessantes. Malgré cette tolérance qui régit nos rapports privés, dans le domaine public, la crainte nous retient avant tout de rien faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois, surtout à celles qui fournissent un appui aux victimes de l'injustice ou qui, sans être loi écrite, comptent pour sanction une honte indiscutée. Avec cela, pour remède à nos fatigues, nous avons assuré à l'esprit les délassements les plus nombreux. Nous avons des concours et des fêtes religieuses qui se succèdent toute l'année, et aussi, chez nous, des installations luxueuses dont l'agrément quotidien chasse au loin la contrariété. Nous voyons arriver chez nous, grâce à l'importance de notre cité, tous les produits de toute la terre, et les biens fournis par notre pays ne sont pas plus à nous pour en jouir que ne sont ceux du reste du monde. Nous nous distinguons également de nos adversaires par notre façon de nous préparer à la pratique de la guerre. Notre ville, en effet, est ouverte à tous, et il n'arrive jamais que, par des expulsions d'étrangers, nous interdisions à quiconque une étude ou un spectacle qui, en n'étant pas caché, puisse être vu d'un ennemi et lui être utile. Car notre confiance se fonde peu sur les préparatifs et les stratagèmes, mais plutôt sur la vaillance que nous puisons en nous-mêmes au moment d'agir. Et pour l'éducation, contrairement à ces gens qui établissent dès la jeunesse un entraînement pénible pour atteindre au courage, nous, avec notre vie sans contrainte, nous affrontons au moins aussi bien des dangers équivalents. Et la preuve, les lacédémoniens ne viennent pas à eux seuls, mais avec tous faire campagne contre notre pays, tandis que nous-mêmes, quand nous attaquons le pays d'autrui, nous n'avons aucune peine en combattant en terre étrangère contre des gens défendant leur foyer à remporter le plus souvent l'avantage. Jamais nos forces n'ont été toutes ensemble engagées contre un ennemi, puisqu'aux soins de la flotte se joint sur terre l'envoi de contingents à nous vers des objectifs nombreux. Mais ont-ils affaire à une fraction d'entre elles? Vainqueurs de quelques-uns des nôtres, ils proclament nous avoir tous repoussés et vaincus avoir été battus par toutes nos troupes. Or, au total, si c'est en nous laissant vivre plus qu'en nous entraînant aux épreuves et avec un courage tenant moins aux lois et plutôt au caractère que nous acceptons les dangers, il nous reste un bénéfice. C'est en évitant de souffrir à l'avance pour les épreuves à venir, de montrer, quand nous les abordons, tout autant d'audace que les gens continuellement à la peine. C'est là un trait par où notre ville mérite admiration. Il se joint à d'autres encore. Nous cultivons le beau dans la simplicité et les choses de l'esprit sans manquer de fermeté. Nous employons la richesse de préférence pour agir avec convenance, non pour parler avec arrogance. Et quant à la pauvreté, l'avouer tout haut n'est jamais une honte. C'en est une plutôt de ne pas s'employer en fait à en sortir. Une même personne peut à la fois s'occuper de ses affaires et de celles de l'État. Et quand des occupations diverses retiennent des gens divers, ils peuvent pourtant juger des affaires publiques sans rien qui laisse à désirer. Seul, en effet, nous considérons l'homme qui n'y prend aucune part comme un citoyen non pas tranquille, mais inutile. Et par nous-mêmes, nous jugeons ou raisonnons comme il faut sur les questions. Car la parole n'est pas à nos yeux un obstacle à l'action. C'en est un au contraire de ne pas s'être d'abord éclairé par la parole avant d'aborder l'action à mener. Car un autre mérite qui nous distingue est de pouvoir tout ensemble montrer l'audace la plus grande et calculer l'entreprise à venir. Chez les autres, l'ignorance porte à la résolution et le calcul à l'hésitation. Or, on peut considérer à bon droit comme ayant les âmes les plus fermes ceux qui discernent de la façon la plus claire le redoutable ou l'agréable, tout en ne se laissant pas pour autant détourner des dangers. De même, pour la générosité, nous sommes à l'opposé du grand nombre. Ce ne sont pas les services qu'on nous rend, mais nos propres bienfaits qui sont à l'origine de nos amitiés. Or, le bienfaiteur est un ami plus sûr. Il veut, par sa bienveillance envers son obligé, perpétuer la dette de reconnaissance ainsi créée. Celui qui est redevable, lui, a plus de mollesse. Il sait que sa générosité, au lieu de lui valoir de la reconnaissance, acquittera seulement une dette. Et seul, nous aidons franchement autrui en suivant moins un calcul d'intérêt que la confiance propre à la liberté. En résumé, j'ose le dire, notre cité dans son ensemble est pour la Grèce une vivante leçon. Cependant qu'individuellement, nul mieux que l'homme de chez nous ne peut, je crois, présenter à lui seul une personnalité aussi complète pour suffire à autant de rôles et y montrer autant d'aisance dans la bonne grâce.
Mais Périclès, dont vous venez d'entendre le merveilleux discours, meurt à l'automne 429 de la peste qui ravage Athènes. Athènes a désormais perdu l'homme qui avait élaboré la stratégie qui s'imposait aux deux camps. Nous allons voir, mais rapidement, les événements principaux de la guerre du Péloponnèse. Cette guerre va durer de 431 à 404, avec une coupure en 421 dite Pédonicias. Elle a comme événement marquant, tout d'abord, que la guerre commence très tôt à produire ses effets destructeurs sur les mentalités et les structures sociales. Ainsi voit-on cruellement traiter les Mytiléniens par Athènes et les Platéens par Sparte. Mais surtout, on voit les affrontements prendre une autre orientation dans l'affaire de Corcyre. La lutte prend un tour nettement différent de ce qui était, selon Thucydide, à l'origine de la guerre. De la lutte contre l'impérialisme athénien, on passe aux affrontements de partis, la guerre donnant malheureusement à tous l'habitude de la violence et de l'illégalité. Les Athéniens, à cette époque, tournent un premier regard vers l'Occident pour soutenir Léontinoï aux prises avec Syracuse. Lorsque, devant un sursaut des Siciliens préférant tenter de se réconcilier plutôt que d'accepter l'impérialisme athénien, les stratèges décident de rentrer, ils sont condamnés à l'exil. Aussi l'affaire ne sera-t-elle que partie remise, nous le verrons plus tard. Il est vrai qu'à l'époque, les Athéniens étaient en pleine euphorie. En effet, en 425, ils avaient débarqué un contingent sur les côtes de Messénie, à Pylos, et les Spartiates étaient venus eux-mêmes se prendre au piège dans l'îlot de Sphactérie, où Cléon était allé les cueillir, provoquant la première grande défaite des hoplites spartiates. Seulement, cette euphorie dure peu. En effet, il y a des revers pour Athènes dès 424, en particulier celui d'Amphipolis, qui nous vaut de la part de Thucydide la guerre du Péloponnèse, car il était le stratège conduisant la flotte, et il ne peut empêcher la chute d'Amphipolis aux mains du Spartiate Brasidas. Il préfère donc l'exil au retour à Athènes. La mort de Cléon en Thrace en 422 pousse les Athéniens à la paix, sur la base à peu près du statu quo ante bellum. Et en 421, la paix est signée, dite Pédonicias, qui apparaît cependant comme plutôt avantageuse pour Athènes, qui, n'ayant pas récupéré Amphipolis, garde la base de Pylos en Messénie. Mais cette paix est extrêmement fragile, d'autant plus qu'elle ne réglait aucun des problèmes qui étaient à l'origine de la guerre. Au contraire, elle les avait aggravés. Le tournant fut peut-être la tentative d'une partie des Péloponnésiens de se révolter contre Sparte qui apparaissait humiliée par la première guerre du Péloponnèse. Mais les Spartiates redressent la situation à leur profit à Mantinée en 418. Et à ce moment-là, ils apparaissent comme dominant le Péloponnèse plus qu'ils ne l'avaient jamais fait, puisqu'ils arrivent à dominer, pour très peu de temps d'ailleurs, même Argos. Les Athéniens, pour rétablir la situation, vont s'emparer de l'île de Mélos, puis ils vont mettre sur pied la grande expédition de Sicile, obéissant ainsi au conseil d'Alcibiade, le neveu de Périclès. La grande expédition de Sicile apparaît comme l'invincible armada de l'époque, car Nicias en effet y était opposé, et tout ce qu'il obtient par ses protestations, c'est tout d'abord que les Athéniens gonflent l'expédition au maximum, deuxièmement qu'il est mis lui-même avec Alcibiade à la tête de l'expédition. Cela était d'autant plus stupide qu'Alcibiade, à peine parti, on voit ses adversaires se déchaîner à Athènes et un vaisseau part à la poursuite de la flotte pour ramener Alcibiade à Athènes afin qu'il se justifie dans l'affaire des Hermocopides. Évidemment, Alcibiade se garde bien de rentrer à Athènes, il échappe à ses poursuivants et il vient se réfugier à Sparte, à qui il donne les meilleurs conseils, si l'on peut dire, pour battre Athènes. Résultat de tout cela, l'expédition de Sicile est un terrible désastre. En 413, Athènes semble au bord de la défaite. Sa flotte est perdue. Nicias et Démosthène, un de ses meilleurs généraux, restent parmi les morts, ou les prisonniers. Cependant, Athènes a un étonnant ressort. En effet, à ce moment-là, les Spartiates, dont ils avaient écumé les côtes en allant en Sicile, décident de passer eux aussi à l'offensive. Ils installent un fort en Attique même de façon à assurer une présence permanente de leurs troupes, à Décélie, ce qui aura pour effet de permettre aux esclaves des mines du Laurion de s'enfuir, tarissant ainsi la source d'argent propre à Athènes. Par ailleurs, ils vont nouer des relations avec les Perses en Asie mineure. Le résultat de tout cela, ce sera la déstructuration d'Athènes et, en 411, un premier coup d'État oligarchique. En effet, la situation est tellement désespérée que les Athéniens doutent de la démocratie et que les oligarques réussissent à faire un coup d'État et à s'emparer du pouvoir. Malheureusement, Thucydide s'interrompt en plein milieu de la révolution oligarchique et Xénophon ne nous dit pas comment cela a fini. Nous savons, dans la fin de l'œuvre de Thucydide, que la flotte athénienne à Samos se transforme en ecclésia et répudie le régime athénien. Il y a donc à ce moment-là, phénomène étonnant, deux Athènes, une dans la cité même, avec ceux qui sont restés en Attique, et une autre, tous les marins de la flotte, à Samos. Finalement, la révolution oligarchique échoue, mais il faudra encore plusieurs années aux Spartiates pour venir à bout d'Athènes. Pour cela, ils envoient en Asie mineure un homme de génie, Lysandre, qui s'entend avec le jeune ambitieux qui est Cyrus le Jeune, lequel lui accorde les fonds nécessaires à la création d'une flotte péloponnésienne. Avec cette flotte, Lysandre, au cours d'un premier mandat, puis accompagnant comme secrétaire, mais personne n'était dupe, son frère, Lysandre réussit donc à battre les Athéniens à Aigos Potamos, sur l'Hellespont. En fait, il a refusé prudemment le combat que lui offraient les Athéniens et il s'est précipité sur le Trier lorsque ceux-ci, exaspérés, les ont tirés à terre pour aller se ravitailler. Après cela, la flotte athénienne détruite, Lysandre n'a plus qu'à aller mettre le siège devant Athènes et s'emparer de celle-ci. C'est fait en 404. Athènes, après plusieurs mois de siège, va capituler devant la famine et être obligée à son tour de détruire ses murs et de livrer sa flotte. Ainsi donc, le 5e siècle s'achève sur la défaite de ce qui avait été la grande puissance du siècle.
C'était un cours destiné aux étudiants de première et seconde année, unité d'enseignement 237, fait par Jacqueline Christian, professeure à l'Université de Paris 10 Nanterre.